Hamlet se prend son figure crâne de squelette à deux mains et essaie de frissonner de tous ses ossements. Oh, voyons, voyons, soyons sérieux ici. Oh, je devrais trouver des mots, des mots, des mots. Mais qu'est-ce donc qu'il me faut, si ceci me laisse froid? Voyons, quand j'ai faim, j'ai la vision intense des comestibles. Quand j'ai soif, j'ai la sensation nette des liquides. Quand je me sens le cœur tout célibataire, j'ai à sangloter le sentiment des yeux chéris et des épidémies de grâce. Donc, si l'idée de la mort me reste si lointaine, c'est que je déborde de vie, c'est que la vie me tient, c'est que la vie me veut quelque chose. Ah, ma vie donc, à nous deux. Et là-bas, où, lui crie le second fossoyeur, voilà justement le convoi d'Ophélie qui monte. Le premier mouvement du penseur Hamlet est de siéger, à ravir le clown réveillé par un coup de maillotche à grosse caisse dans le dos, et c'est tout juste qu'il le réprime. Puis il se glisse derrière une balustrade trilobée à jour et s'apprête à voir un peu. Le mélancolique convoi débouche, une fois pour toutes. Dans le cahotement de la montée, des roses blanches tombent du velours noir recouvrant le cercueil. Tombent, hélas, une fois pour toutes. Elle n'est cependant pas si lourde, pense Hamlet avec intérêt. J'oubliais, oui, elle doit être gonflée d'eau comme une outre. Petite salle repêchée à l'écluse. Elle devait finir par là, ayant puisé sans méthode dans ma bibliothèque. Oh, mon Dieu, maintenant j'apprécie ses grands regards bleus. Pauvre, pauvre jeune fille, si maigre et si héroïque, si inviolée et si modeste. Et tant pis, c'est la débâcle, la débâcle. Le conquérant fort à bras, on lui fait demain sa maîtresse. Il est turc là-dessus. Et elle en serait incontestablement morte de honte. Je la connais, l'ayant bien dressée. Elle en serait décédée, ne laissant qu'une bien vilaine réputation de belle Hélène. Tandis que, grâce à moi... Hamlet s'oublie un instant à suivre les gestes des moines officiant autour du trou. Ils vont vite en besogne, les moines, car ils ont fort à faire demain dimanche. Une jeune fille... Oh, c'est aussi promptement enterré qu'un marié. Où trouver le temps pour se révolter contre tout cela? L'art est si long et la vie si courte. Et Hamlet ne peut que se sentir crispé d'un remords à fleur de nerfs pour son humble part. Tout de même, moi qui ai si bon cœur, moi dont le cœur d'or est si connu, avoir fait ça. Oh, fille, Hamlet, fille, pauvre Ophélie, pauvre Lily, c'était ma petite amie d'enfance, je l'aimais, c'est évident, ça tombait sous les sens. En même temps, je ne demandais pas mieux que de me régénérer selon le regard de son sourire. Mais l'art est si grand et la vie est si courte, et rien n'est pratique. Et par ma mère et mon frère et tout, j'étais damné d'avance. Oui, il y a de ça. Et donc, alors, la peine que, en conséquence, je ne pouvais manquer de lui faire, la rendit si maigre, que l'anneau d'alliance que je lui avais eu, en vue des temps meilleurs passés au doigt, en tombait à chaque instant. Preuve céleste que... Et puis elle avait l'air par trop périssable. Et puis avec ses galas de la cour, on se décollait dès 16 ans. Ses épaules ne me furent pas une virginité à saccager. Ah, le diable me confie si je me rappelle quand j'ai vu ses épaules pour la première fois. Or, on le sait, la virginité des épaules, c'est tout pour moi. Je ne transige jamais là-dessus. Et puis elle en était venue là comme les autres, malgré tout le céleste de ses regards levés. J'étais donc volé, il ne me restait plus qu'à observer ses menus gestes de femelle. Je songeais, à quels yeux croire désormais, fille, j'aurais dû lui crever les yeux, ses yeux et m'y laver les mains. Et enfin d'ailleurs, cette infernale voix qui toujours arrivait bonne première à nos rendez-vous et m'étourdissait à ne plus m'y reconnaître, de je l'embrassera. Pas, c'est absolu. Non, des mots, des mots, des mots. J'en serais devenu fou. Que dois me ménager? Allez, allez, psalmodier. Holy, 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 Lord good, almighty. La personnalité divine, quelle idée! Voilà ce qui s'appelle faire des personnalités. Son paradis, c'est encore mon souvenir. Car en effet, elle avait ce que je demandais toujours à la fiancée de mon génie. Une bouche ingénument accueillante, mais gardée par de grands yeux, qui savent, ou bien, comme cette actrice Kate, avouons-le, de fins yeux bleus, vagabonds et crédules, gardés par une bouche ravagée avec le pli amer du coin immortellement sur la défensive. Et son profil. Et c'est là d'ailleurs le seul étalon pour mesurer la beauté de la femme. Me rappelait celui d'aucun animal, du bulldog à la gazelle. Et dans l'intimité, je ne lui ai jamais surpris la nuance chienne. Bref, c'était une sainte en jupe simple. Il était dommage qu'elle vieillît. Et maîtresse de fortin bras. Oh, Ophélie, que l'étais-tu née, ma compagne? Que l'étais-tu assez inconnue pour cela? Je l'ai aidée à se faner, et la fatalité a fait le reste. Ophélie, Ophélie, ton beau corps sur l'étang, c'est des bâtons flottants à ma vieille folie. Et la cérémonie tira sa fin, une fois pour toutes. On entend les boules de terreau sonner sur le cercueil, sonner sur ce cercueil, hélas, une fois pour toutes. Elle avait un torse angélique, encore une fois. Que puis-je à tout cela maintenant? Allons, je donne 10 ans de ma vie pour la ressusciter. Dieu ne dit mot. Alors à te juger. C'est donc qu'il n'y a pas de Dieu, ou bien que c'est moi qui n'ai même plus 10 ans à vivre. La première hypothèse me semble plus viable, et pour cause. Hamlet, homme d'action, ne quitte sa cachette qu'assuré, bien entendu, que cette brute de Laertès a filé avec toute l'honorable compagnie. Mon frère Yorick, j'emporte votre crâne à la maison. Je lui ferai une belle place sur l'étagère de mes ex-voto, entre un gant d'Ophélie et ma première dent. Ah, comme je vais travailler cet hiver avec tous ces faits, mais j'ai de l'infini sur la planche. La nuit tombe. Ah, oh, il faut agir. Hamlet reprend le chemin du château, sans trop se laisser envahir par la quotidienneté de la nuit sur les grandes routes. Il monte d'abord dans sa tour, déposer ce crâne, ce puissant bibelot. Il s'accoude à l'instant à la fenêtre à regarder la belle pleine lune d'or qui se mire dans la mer calme, et il fait serpenter une colonne brisée de velours noir et de liquide d'or, magique et sans but. Ses effets sur l'eau mélancolique. La sainte et damnée Ophélie a flotté ainsi toute la nuit. Bon, je ne puis pourtant pas me tuer, me priver de vivre. Ophélie, Ophélie, pardonne-moi, ne pleure pas comme ça. Hamlet rentre dans sa chambre et tâtonne fébrilement. Je ne peux pas voir les larmes des jeunes filles. Oui, faire pleurer une jeune fille, il me semble que c'est plus irréparable que l'épouser. Parce que les larmes sont de la toute enfance. Parce que verser des larmes, cela signifie tout simplement un chagrin si profond que toutes les années d'endurcissement social et de raison crèvent et se noient dans cette source rejaillie de l'enfance de la créature primitive incapable de mal. Adieu, beaux yeux, quand même inviolés, car inapprivoisables d'Ophélie. Il se fait tard, il faut agir. À demain les baisers et les théories. Hamlet descend pour voir comment sa pièce est mise en train. Un corridor où d'ordinaire campe la réserve de buffet des grands bals de gala a été divisé en cabinets et doit servir de coulisses à des comédiens. Hamlet, sans y trop songer, pousse doucement la porte de ses cabinets et entre. Il s'arrête dès le seuil. Là, vraiment, parmi les coffres déballés, éplorée comme une madeleine, toute hoquetante des derniers sanglots d'une crise, cette actrice Kate gît sur le parquet, en robe de brocart rouge, lamée d'or à traîne, mais sans corsage encore, les bras et les épaules à fer, la poitrine nature en une chemisette à plissé merveilleux, là, en pauvre créature, peut-être consolable. Hamlet clôt dextrement et doucement la porte derrière lui et s'approche de cette nouvelle histoire. Eh bien, qu'est-ce que c'est, Kate? Qu'est-ce que vous avez? La belle Kate ne s'émeut pas plus que cela de la présence de son Altesse. Elle reste encore des minutes ainsi prostrée dans la supériorité de ses larmes, dans la supériorité de son enfance retrouvée. Puis, comme il faut toujours bien agir, elle se lève et, sans plus s'occuper de son Altesse que pour lui tourner le dos, elle se reprend à organiser de ci, de là, dans le désordre, sa toilette de reine d'un soir, rageante avec les restes de larmes contre des nœuds de lacets. Qu'elle est généreusement belle, malgré tout. Oh, certes, si elle lui parle, si elle parle et côtoie l'hamlétisme sans y tremper, Hamlet est perdu. Perdu et gagné. Voyons, c'est pas tout ça. Qu'aviez-vous, Kate, mamie? Et il la prend gentiment par la taille. Dites-moi cela, moi. Et voilà la belle Kate qui le regarde en face immortellement, et puis se laisse aller, cacher son visage dans la poitrine du chaste prince, et se remet à fondre en larmes, à pleurer toutes ses larmes sur ce pourpoint de velours noir où Ophélie en a déjà pas mal versé le mois passé. Hamlet croit devoir lui semer la nuque de baisers calmants et autres en laissant les bandeaux de ses cheveux. Il faudrait la plume de Hamlet pour vous servir le sentiment de la beauté de Kate. Kate est une de ces apparitions qui, dans la rue, vous cloue là sans qu'on songe à la suivre. À quoi bon, se dit-on, ce que sa vie doit être prise à celle-là, et que dans un salon, on regarde, non d'un air beau, fou, tendre, mais indifférent et lointain, ce qu'elle doit être habituée aux têtes qui se retournent, ahuries, pas la peine d'en grossir la cohue, pense-t-on. Puis on apprend qu'elle vit comme une autre, ou mariée, ou seule, ou par-ci, par-là. Et l'on s'étonne qu'elle ne soit pas la fameuse une telle, une accablée de drames internationaux malgré ses 25 ans et son air de monstre qui a toujours bien dormi la veille. Et Kate, qui a passablement roulé, a roulé rien moins qu'épiquement. Elle a roulé, ô misère, ô petite ville, abat-jour des lampes intermédiaires, crasseux claquement de porte. Ô misère, ô occasion! Elle a roulé, cependant elle est là. Elle vous regarde et l'amour de sa bouche est une campanule éclose de ce matin. Et ses grands yeux inconnus balbutient. Quoi? Ah? Et quelle modestie dans ce doux chignon sur cette nuque délicate. Oh, laissez donc. Elle est de l'autre sexe, elle est esclave, elle ne sait pas. Elle ne sait guère. Et Hamlet ne sait que promener de pitié et de chatterie l'amour de ses lèvres adolescentes sur la peau tendrement rincée de ses chastes épaules abattues de chagrin et se montrer créature, créature sans phrase. Mais non, les prairies naturelles sont loin à cette heure. Il faut d'abord faire table rase, et dès ce soir. Maintenant, Kate, vous allez me dire pourquoi ces larmes où je vous ai trouvées. Oh, vous qui ne me connaissez pas hier et qui trouvez ce soir mes baisers naturels, il faut me dire. Oh non, jamais. C'est donc bien vilain, alors. Voyons à moi. Et comme il achève ce mot dans ses épaules, où il passe et repasse ses joues, elle le regarde en face, baisse les yeux, s'étire les bras et dit, très ennuyée d'une voix maussade, eh bien voilà, je ne suis qu'une malheureuse, mais j'ai l'âme haut placée, qu'on le sache. Dieu sait si j'en ai consommé sur les planches des héroïnes sublimes. Mais quand j'ai lu les scènes de l'enfance et des premières fiançailles de mon rôle, dans votre espèce de pièce, oh, tenez! Comme c'est ça, notre pauvre destinée pitoyable et impitoyable. Vous devez être unique et incompris. Non pas fou comme ces gens à cure-dents et à prons le disent, mais aussi que vous avez dû en faire souffrir. Alors voilà, c'est bien simple, non, non. Mais continue, continue, Ophélia. Oh, tenez, voilà, en m'habillant, je me répétais le monologue à l'église. Et soudain, mon cœur a crevé de nouveau dans ses larmes, et je me suis laissé aller sur le plancher. Si vous saviez comme j'ai un grand cœur. Oh, j'en ai assez de cette existence cynique et vide. Demain, je quitte tout, je reviens à Calais, et j'entre en religion pour me consacrer aux pauvres blessés de la guerre de 100 ans. Hamlet, quoique bien élevé, ne peut guère contenir son allégresse d'artiste. C'est son baptême de poète, et cette comédienne le lui apporte ainsi enveloppé de la première scène de Londres. Et voilà Hamlet qui surmène la pauvre quête d'explication, se fait indiquer les moindres mots et de tout son cœur cosmique se mire dans ses yeux connaisseurs que son génie vient d'élargir de gloire. Alors, tu crois que devant un public de capital et aux lumières, l'effet serait renversant? Et qu'on me regarderait passer dans les rues en s'étonnant de mon allure triste? Et que d'aucuns se tueraient devant l'énigme de ma vie. Oh, Kate, si tu savais. Ce drame-ci, ce n'est rien. Je l'ai conçu et travaillé au milieu des répugnantes préoccupations domestiques. Mais j'en ai encore là-haut des drames et des poèmes, des féeries et des métaphysiques, inouïs, foudroyants ou donneurs de morlantes. Ah, tiens, nous allons nous aimer. Je quitte tout, nous partirons cette nuit sous ce clair de lune si lucide. Je te lirai tout, nous irons vivre à Paris. Kate se reprend à pleurer en silence. Non, non, Hamlet, ce n'est pas pour moi. Je veux me retirer et entrer en religion, soigner les blessés de la très lamentable guerre de 100 ans et prier pour vous. On toque à la porte. Allô, Kate, essuyez vos yeux intéressants. Bâclez votre toilette, je reviendrai à la fin du spectacle. Je vous aime, je vous aime. Et vous me direz des nouvelles de cette immensité. Entrez. C'est le régisseur, Hamlet lui-même, intime, lui intime en passant. On me garde le secret, n'est-ce pas? Ce drame ne vient pas de moi. Il est le premier venu de votre répertoire. Allez-y carrément. Et, continue Hamlet tout haut en remontant chez lui, je me moque de cette représentation et de sa moralité comme du premier amant de Kate. Le sort est jeté. Je tiens ma solution. Ces choses-là viennent toujours d'où on les entendait le moins. À moi, la vie et les alentours, et les très glorieux pessimismes quand même. Hamlet s'habille solidement, range des eaux fortes qu'il entasse avec des manuscrits, de l'or et pierreries dans deux coffrets. Il choisit de menues armes, puis il allume un réchaud, pose dessus une planche de cuivre à graver sur laquelle il couche ensuite les deux statuettes de cire au cœur puérilement percé d'une aiguille, et les deux statuettes bientôt coulent, s'unissent tendrement en une mare répugnante. Et je me fiche aussi de mon trône, c'est trop abrutissant. Fortin Brasse de Norvège me dirait que c'est là le meilleur parti à prendre. Soit, tout est bien. Les morts sont morts. Je vais voir du pays. Et Paris. Oh, je suis sûr qu'elle joue comme un ange, comme un monstre. Nous ferons sensation. Nous aurons des noms de guerre bizarres. Hamlet cherche un instant un nom de guerre bizarre. Mais non, tout l'espace qu'ils vont dévorer à cheval, cette nuit le prend déjà à la gorge. Comme demain, dimanche, quand les jeunes filles d'Elseneur seront ainsi que toujours à la messe et à vêpres, comme demain à 7 heures, eux seront loin, mélancoliquement loin des remparts d'Elseneur. Hamlet sonne son écuyer pour les derniers préparatifs. En l'attendant, il s'amuse à souffleter de jets de salive ses toiles pendues au mur de sa chambre, ses vues du Jutland qui ont pesé sur sa jeunesse, stérile et mal nourrie. Le roi Fungo et la reine Geruta promènent un sourire fatigué d'affabilité et s'installent dans leur stall. La salle sera sciée dans le froufrou indécis d'un champ de blé mûr écoutant d'où va venir le vent. Des pages se retirent vers les portes. Le rideau de la scène se sépare en deux. Dans un coin obscur de tribune, Hamlet, dont nul jamais ne s'inquiète, assis sur un coussin, observe la salle et la scène par les baies de la balustrade. Le cliché public ou le lui vient aux lèvres. Allons, Hamlet, que tout ceci vous laisse imperméablement froid. La salle est nulle, l'étiquette défend d'applaudir, et l'on va modeler son visage sur ceux du couple royal, lequel ne sera guère à son aise, et par conséquent guère impartial dès le second acte. La pièce commence. Hamlet la sait par cœur, s'absorbe dans des expériences d'effets scéniques, note d'avance la portée de ses mots devant un vrai public, rumine des retouches. Kate enfin paraît et électrise l'œuvre. Parbleu, je n'étais qu'un écolier. Voilà ce qui me manquait, l'épreuve de la rampe. Oh, je n'ai pas encore donné le quart de ce que j'ai dans le ventre. Et elle, comme elle est carrément et chimériquement belle, ainsi coiffée à la Titus. Elle n'a pas l'air de savoir où on la mène, et ses yeux qui tantôt savent tout, tout, tantôt rien, rien au nom du ciel. Vrai, son être est trempé pour l'accomplissement de choses dont on parlera dans 1000 ans. Nous nous comprenons, nous ferons sensation. Elle a comme Ophélie cet air collé monté, mais à elle, ça lui donne du bon temps. Un mot à noter. Je veux l'aimer comme la vie. Oh, comme elle a dit ça. Oh, reviens là. Reviens vagir parmi mes cheveux de moi. Je t'y ferai des bracelets d'aveux. En veux-tu, en voilà. Oh, je viens, va. Et moi, qui croyais connaître la femme et la liberté, et les salissait de banalités a priori, cuistre, pédicure. Et les deux criminels là-bas, ils ont l'air au spectacle, ma parole. Ils ne comprenaient pas encore d'où vient cet horrible, horrible drame. Je me suis peut-être un peu trop livré au hors-d'œuvre de fantaisie, et il en reste malgré ses coupures. Mais attendons la scène du jardin. Tiens, l'artiste n'est pas là. On se lève pour l'entracte. Le roi et la reine font cercle, les pages ayant repris les traînes de leurs manteaux, se promènent leur sourire affable et fatigué. On fait circuler des tranches de hareng et de petites cornes d'aurochs ou mousse de la cervoise. Dans la scène 2 de l'acte suivant et devant ce décor de tonnel où le roi Gonzago commence à s'assoupir, éventé par sa femme, Fengo, au cœur lâche, comprend et sans attendre l'entrée de Claudius, il s'affaisse évanoui. La reine se lève, droite, très Paul de la Roche. On s'empresse avec tout un répertoire de mines et de chuchotements. Un coup de hallebarde du chambellan, successeur de Polonius, heureux d'inaugurer ainsi ses fonctions, fait tirer le rideau sur l'horrible, l'horrible, l'horrible pièce. Hamlet s'est dressé dans son coin, balbutiant. Musique, musique! C'était donc vrai, et moi qui n'y croyais pas encore. Enfin, ils sont assez punis comme ça, c'est mon avis. Moi, je file. Un jour de plus, et l'on m'empoisonnerait comme un rat, un sale rat. Il se lance à travers des escaliers de service pleins de tintements de sonnettes et d'appels. Les coulisses sont désertées. Hamlet reprend d'abord son manuscrit abandonné, là ouvert à l'endroit interrompu. Kate l'attendait. Non, un simple évanouissement, je te raconterai après. Mais que je t'embrasse, tu as joué comme un ange. Maintenant, nous n'avons pas une minute à perdre, comme deux rats. Il l'aide à sortir de ses brocards. Elle a eu la bonne idée de garder sa toilette ordinaire par-dessous. Hamlet l'enveloppe d'un manteau et la coiffe d'une toque. « Suis-moi !» Il traverse le parc, faisant s'envoler des oiseaux assoupis. Hamlet sifflote allègrement. Ils sortent par une petite porte. Un écuyer est là, tenant deux chevaux par la bride. Le temps de s'enchasser en selle entre ces précieux coffrets, et les voilà partis au trot, tout naturellement. Non, c'est pas possible, cela s'est fait trop vite. Ils vont à travers champs pour regagner la grande route, sans passer par la porte d'Elseneur, la grande route sans la lune qui doit faire si bien ensuite là-bas, par les plaines et les plaines. C'est la route où, quelques heures auparavant, Hamlet cheminait, croissant des prolétaires quotidiens. Il fait un suave temps, calorifère du paradis. Et la lune joue, non sans succès, l'enchantement des nuits polaires. Kate, avez-vous soupé en le spectacle? Oh non, je n'avais guère le cœur à manger, vous pensez bien. Bien, moi, je n'ai rien pris depuis midi. Dans une heure, nous serons à un rendez-vous de chasse, Nous prendrons quelque chose. Le garde est mon père nourricier. Tu verras chez lui une miniature de moi en bébé. » Hamlet s'aperçoit qu'ils vont justement passer près du cimetière. Le cimetière. Et le voilà qui, piqué dans ses quelques tarentules, descend de son cheval qu'il attache à un arbre indifférent et mélancolique. « Kate, attends-moi une minute. C'est pour la tombe de mon père qui a été assassiné, le pauvre homme. Je te raconterai. Je reviens un instant, le temps de cueillir une fleur, une simple fleur en papier, qui nous servira de signet quand nous rentrons ce drame et que nous serons forcés de l'interrompre dans des baisers. » Il s'avance dans le clair de lune parmi les ombres crues des cyprès, sur les prières et pierres. Il va à droite à la tombe d'Ophélie, de la déjà si mystérieuse et légendaire Ophélie, et là, les bras croisés, il attend. Décidément, les morts, c'est discret, s'adorent bien au frais. « Qui va là ? C'est toi, Hamlet de malheur, que viens-tu faire ici ? C'est vous, mon cher Laertès, et quel bon vent ! Oui, c'est moi. Et si vous n'étiez pas un pauvre dément irresponsable selon les derniers progrès de la science, vous paieriez à l'instant la mort de mon honorable père et celle de ma sœur, cette jeune fille accomplie là, sur leur tombe. Bon, Laertès, tout m'est égal. Soyez sûr que je prendrai votre point de vue en considération. Juste ciel, mais quelle absence de sens moral. Alors vous croyez que c'est arrivé? Alors hors d'ici, fou, ou je m'oublie. Quand on finit par la folie, c'est qu'on a commencé par le cabotinage. Et ta sœur? Oh! Ce moment, on entend dans la nuit, tout spectralement clair, la voix si surhumainement seule d'un chien de ferme à la lune, que le cœur de cet excellent Laertès, qui aurait plutôt mérité, j'y songe hélas trop tard, d'être le héros de cette narration, déborde, déborde l'inexplicable anonymat de sa destinée de 30 ans. C'en est trop. Et saisissant d'une main Hamlet à la gorge, de l'autre il lui plante au cœur un poignard vrai. Notre héros s'affaisse sur ses genoux orgueilleux dans le gazon et vomit des gorgées de sang et fait l'animal talonné par une mort certaine et veut parler. Et il parvient à articuler « Ah ! Qualix artifex pereo !» Quel grand artiste disparaît, comme disait Néron, et rend son âme hamlétique à la nature inamovible. Laertès, idiot d'humanité, se penche, embrasse le pauvre mort au front, et lui serre la main, puis tâtonnant dans le vide, s'enfuit à travers les clôtures pour toujours se faire moine, peut-être. Silence et lune, cimetière et nature, Hamlet, Hamlet, appelle bientôt la grelottante voix de Kate. Hamlet! La lune inonde tout d'un silence polaire. Kate se décide à venir voir. Elle voit. Elle palpe ce cadavre livide de lune et de décès. Il s'est poignardé au ciel. Elle se penche sur cette tombe et lit. Ophélie, fille de Lord Polonius et de Lady Anne, morte à 18 ans, et datée d'aujourd'hui. Mais c'était celle qu'il aimait. Alors pourquoi m'emmenait-il avec amour? Pauvre héros! Que faire? Elle se penche, l'embrasse, l'appelle. Hamlet, my little Hamlet. Mais la mort est la mort, c'est connu depuis la vie. Je vais retourner au château avec les chevaux, retrouver l'écuyer, témoin de notre départ, et je dirai tout. Elle repart au même trot, tournant le dos à la pleine lune, qui devait faire si bien là-bas sur les plaines vers Paris, et les brillants Valois, tenant cour plénière. On sut tout, le répréhensible coup du drame à personnalité, l'enlèvement. On envoya chercher le cadavre avec des flambeaux de première qualité. Oh, soir historique après tout. Or, Kate était la maîtresse de William. Ah ah, fit cet homme, c'est comme ça qu'on voulait lâcher Bibi. Bibi est une abréviation de Billy, diminutif de William. Et Kate reçut une belle volée, qui n'était pas la première et ne devait pas être la dernière, hélas. Et cependant, elle était si belle, Kate, que, en d'autres temps, la Grèce lui eût élevé des autels. Et tout entra dans l'ordre. Un Hamlet de moins. La race n'est pas perdue, qu'on se le dise.